Vous écoutez On lit pour vous.
En mémoire des victimes des pensionnats autochtones. Un texte de la rédaction paru le 8 octobre 2024 dans le Moniteur acadien du Nouveau-Brunswick. De passage à Whitehorse, au Yukon, pour le congrès national de réseau.presse, le Moniteur acadien s'est rendu au centre culturel de Haines Junction. Nous y avons été accueillis en français par John Finglin, membre de la Première Nation de Champagne et Deshi-Hik. Avec un talent de conteur, il nous a dévoilé la géographie impressionnante de son territoire du Nord-Ouest canadien qui borde l'Alaska et exposé des éléments de l'histoire des peuples autochtones du Yukon. La visite s'est achevée sur une présentation de monuments érigés en mémoire des filles autochtones qui n'ont pas survécu au système des pensionnats. Le texte figurant sur le monument est le suivant. « Je suis une enfant qui est devenue une femme. En tant que femme, je sais que je suis l'enfant d'une survivante des pensionnats autochtones. Enfant, je ne comprenais pas pourquoi ma famille et moi étions si maltraités. J'ai connu la faim, la peur, la douleur, les abus, la honte et ce que cela signifiait de ne pas avoir les bonnes choses. En tant que femme, je comprends que ma famille, aussi brisée soit-elle, est toujours bonne. Nous ne sommes pas seulement des survivants, nous sommes les marcheurs de rêves, vivants, qui ont mis les pieds dans les deux mondes. Nous avons emprunté de nombreux chemins et nous continuons d'ouvrir la voie pour que notre histoire soit laissée derrière nous, mais jamais oubliée. Aux petites filles qui n'ont jamais pu mettre les chaussures d'une femme, ni danser une danse de femme, ni courir une course de femme, je laisse mes souliers. Tandis que je marche, je porte les rêves de nos ancêtres. Des rêves qui ne se sont jamais réalisés pour vous. Vous n'avez pas eu la chance de revenir chez vous et de marcher sur les sentiers. Vous n'avez pas eu la chance de suivre les traces de vos aînés. Comme vous êtes passé de ce monde au monde des esprits, ces chaussures ne vous suivront pas. Mais mes pieds fouleront toujours cette terre et je continuerai à marcher sur les traces de mes rêves. Nous, les marcheurs de rêves, continuerons à ouvrir la voie et à porter avec nous le pouvoir de nous souvenir de notre passé et de surmonter les traumatismes. Nous n'oublierons pas, mais nous continuerons à marcher et à ouvrir la voie à la prochaine génération de marcheurs de rêves, afin qu'elle n'ait pas à porter ce traumatisme. Nous sommes plus que des survivants des pensionnats autochtones. Auteur anonyme, traduction Damien Dauphin. Le Moniteur acadien tient à remercier Marine Dumaine, directrice de l'Aurore boréale, pour son accueil et sa guidance sur le chemin de la vérité et de la réconciliation. C'était En mémoire des victimes des pensionnats autochtones. Un texte de la rédaction paru le 8 octobre 2024 dans le Moniteur acadien du Nouveau-Brunswick.
Consommer à l'école un jeu d'enfant. Un texte de Jessica Nadeau paru le 30 octobre 2024 dans Le Devoir. Il y a toujours eu de la drogue à l'école, mais ces dernières années, la situation est devenue plus inquiétante. Les substances sont plus variées, plus fortes et surtout plus sournoises en raison de la contamination au fentanyl et à ses dérivés. En parallèle, l'accès aux stupéfiants, par l'entremise des réseaux sociaux, est plus facile que jamais. Le Devoir a voulu faire le tour de la question. Dans ce volet, la consommation à l'école vue par les directions d'école et des jeunes. Ils s'approvisionnent à l'école et consomment dans les toilettes, derrière la porte de leur casier ou même directement dans la classe. Pour certains jeunes, la présence de stupéfiants à l'école est tellement normalisée qu'ils ont l'impression que le personnel a perdu le contrôle. Les incidents liés à la drogue sont effectivement nombreux, a pu constater Le Devoir. Consommation, saisie, suspension, appel à la police et intervention médicale pour des surdoses. En 2023 seulement, plus de 2900 incidents ont été répertoriés dans les écoles secondaires du Québec. Et le portrait est loin d'être exhaustif. À l'école, il y avait beaucoup de gens qui consommaient dans les toilettes et qui avaient de la consommation sur eux, comme si c'était normal. Ils mettaient les choses dans leur brassière ou dans leur poche. Même moi, je faisais ça, explique Jeannette, 15 ans, qui témoigne sous un prénom fictif, comme les jeunes filles qui l'entourent. Elles sont une dizaine, assises en cercle, dans le complexe de Portage, un centre de traitement des dépendances pour jeunes situé dans les Laurentides. Elles racontent leur vécu, qui se ressemble parfois un peu trop. Elles ont pratiquement toutes commencé à consommer de la drogue à l'école avec des amis. Pour faire comme les autres, fuir leurs problèmes, gérer leurs émotions, se sentir vivantes ou attirer l'attention de leurs parents. Parfois, tout ça à la fois. Que ce soit du cannabis, de la cocaïne, des méthamphétamines ou de la MDMA, elles n'avaient aucun mal à trouver ce qu'elles cherchaient. Et c'est à l'école qu'elles s'approvisionnaient. C'est juste tellement accessible, la drogue, dans les écoles. Il y a plus de vendeurs dans les écoles qu'à l'extérieur. C'est triste, mais c'est ça, lance Sarah, 18 ans. À l'étage du dessous, le groupe des garçons fait sensiblement le même constat. Les garçons témoignent de la facilité déconcertante avec laquelle ils achetaient de la drogue sur Internet et sur les réseaux sociaux. Certains pour leur consommation personnelle, d'autres pour la revendre à l'école. Pour moi, en tant que mineur, c'est plus facile d'avoir des drogues illégales que d'acheter de l'alcool ou des cigarettes, illustre Liam, 17 ans. Il consommait pratiquement là, où et quand il le voulait, que ce soit dans la cour d'école pendant les pauses, chez des amis le midi ou même en classe. C'est devenu un jeu d'enfant, disent-ils, depuis l'apparition du wax pen. Cette vapoteuse inodore, mais qui sent parfois les fruits ou la gomme ballon, permet de consommer du cannabis sans l'odeur caractéristique qui les aurait trahis. Tu fais juste lever un peu ton bureau ou tu prends une pof dans ta manche ou tu fais semblant d'attacher tes lacets 20 fois pendant le cours, raconte Zach, 19 ans, sous les rires et les hochements de tête d'approbation des autres garçons du groupe. N'empêche, les toilettes étaient leur lieu de prédilection pour la vente et la consommation de drogue, affirme-t-il. C'est encore le seul endroit dans une école où il n'y a ni surveillance ni caméra de sécurité. L'endroit idéal, disent-ils, pour prendre une bouffée de wax pen, faire une clé de cocaïne ou avaler un comprimé ni vu ni connu. 2900 incidents rapportés. Depuis le temps qu'elle travaille comme directrice d'école à cette île, Marie-Ève Murray connaît tous les trucs. Quand on passe devant les toilettes et qu'il y a une odeur de fraise qui s'en dégage, on sait bien qu'il s'est passé quelque chose, explique-t-elle. Elle sait aussi que des jeunes vendent leurs médications pour le TDAH ou l'anxiété. Ça se consomme à l'école, on n'en doute pas, mais ça se fait tellement discrètement que c'est très rare qu'on arrive à les prendre sur le fait. À défaut de les prendre en flagrant délit de consommation, les membres du personnel peuvent intervenir lorsqu'ils voient qu'un élève n'est pas disponible pour les apprentissages parce qu'il est sous l'effet de la drogue. Ils peuvent également procéder à des fouilles lorsqu'ils ont des doutes. Et force est de constater qu'ils arrivent à en démasquer plusieurs. Sur environ 170 écoles secondaires pour lesquelles Le Devoir a pu obtenir des chiffres, grâce à la loi sur l'accès à l'information, sur un total de 600 écoles publiques offrant de l'enseignement secondaire au Québec, on dénombre environ 2 900 incidents reliés à la drogue pour la dernière année scolaire. Les centres de services scolaires n'étaient pas tous en mesure de ventiler ces chiffres par type d'incident, mais on peut tout de même compter 1 200 suspensions, 550 saisies et 350 appels à la police. Les chiffres sont loin d'être exhaustifs, car près de la moitié des centres de services scolaires n'avaient aucun document indiquant le nombre d'incidents survenus dans leurs écoles secondaires. C'est le cas du Centre de services scolaires, CSS de Montréal, qui n'a pas de fichier centralisé, mais qui indique tout de même avoir procédé à 64 suspensions pour possession ou consommation de drogue. Les établissements scolaires n'ont en effet aucune obligation de consigner les incidents en lien avec la drogue, comme c'est le cas par exemple pour les cas d'intimidation et de violence. C'est donc géré à la pièce, et il est très difficile d'avoir un portrait de la situation dans son ensemble. Certains centres de services scolaires, CSS, ont néanmoins développé leurs propres outils. Le CSS des affluents, par exemple, s'est doté d'un protocole uniformisé pour l'ensemble de ses écoles. Le CSS de la Rivière-du-Nord dans les Laurentides utilise quant à lui un outil de consignation des interventions lorsqu'un élève est soupçonné d'avoir consommé de la drogue ou qu'il en a eu en sa possession. À lui seul, ce CSS dénombre 525 incidents concernant 102 élèves. Les 102 élèves dont il est question représente moins de 1% de notre clientèle. Nous sommes loin d'être confrontés à un fléau, dit Nadine Brochu, agente de développement et communication au CSS de Rivière-du-Nord. À l'autre bout du spectre, le CSS du littoral, qui gère des écoles mixant souvent le primaire et le secondaire dans des villages éloignés de la Basse-Côte-Nord, assure qu'il n'existe aucun incident en lien avec de la consommation de drogue dans ces écoles et n'offre aucun atelier de prévention. Vous écoutez « Consommer à l'école, un jeu d'enfant », un texte de Jessica Nadeau, paru le 30 octobre 2024 dans Le Devoir. Réduction des méfaits ou tolérance zéro. Les façons d'intervenir auprès des élèves varient également d'une école à l'autre, a pu constater Le Devoir. Ces dernières années, plusieurs ont adopté une approche de réduction des méfaits, qui vise à accompagner les jeunes pour les amener à faire de meilleurs choix et à diminuer les impacts de leur consommation sur leur vie, plutôt que de leur dire que la drogue, c'est mal. C'est le cas de l'école Nicolas Gatineau en Outaouais. Autrefois, on était en répression, on disait « zéro drogue ». Mais on n'arrive pas à l'objectif comme ça, affirme la directrice Valérie Carrier, qui veut garder une relation positive avec les jeunes pour les amener à se confier s'ils ont besoin d'aide. Réduction des méfaits ne veut toutefois pas dire qu'on laisse les jeunes consommer en toute impunité, nuance-t-elle. C'est certain qu'on ne tolère pas les jeunes en consommation à l'école. L'élève va être retourné à la maison, on va communiquer avec ses parents. Et on va faire une rencontre obligatoire avec notre intervenante en dépendance à son retour. Elle a procédé, en 2023, à 142 suspensions, un nombre plus élevé dans cette seule école que dans bien des centres de services scolaires, mais elle précise que cela ne concerne qu'une cinquantaine d'élèves, et que ceux-ci ont été suspendus à l'interne, ce qui signifie qu'ils ont eu une journée de réflexion au local de l'intervenante. La plupart des directions d'école à qui Le Devoir a pu parler disent appliquer un principe de gradation selon le type d'incident, le nombre de récidives et la volonté du jeune à s'aider lui-même. D'autres optent pour la ligne dure. On mise sur la prévention, mais on applique le principe de tolérance zéro, affirme Marie-Ève Murray à cette île. Les suspensions, c'est 5 jours automatiquement, sans nuance si c'est une petite pof ou une ligne de coke. Tu es out pour 5 jours. C'est illégal et on veut envoyer un message clair qu'on ne tolère pas ça. Malgré le nombre de suspensions et d'interventions répertoriées dans les écoles, les adolescentes de Portage trouvent que les professeurs et les autres membres du personnel semblent être dépassés par les événements ou avoir carrément jeté l'éponge. Je pense que c'est beaucoup le découragement, mais aussi de l'impuissance et de l'incompréhension, affirme Jeannette. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas assez sensibilisés. Ils ne voient que l'action et non pas le comportement derrière. C'est quoi qu'on essaie d'escape? Mais s'ils veulent de l'aide, les jeunes se gardent bien de le montrer, témoigne Chanel. En tant qu'enfant consommateur, je pense qu'on a beaucoup développé des moyens de manipulation, comme des comportements sneaky, être capable de le cacher, de mentir aux intervenants et aux adultes en général dans notre entourage. Surdose en pleine classe. Parmi les incidents répertoriés par Le Devoir, on compte 29 interventions médicales en lien avec une surdose, dont 3 à l'école Jean Dunord Manicouté à Sept-Îles. Ce n'était pas la première fois que la directrice faisait face à des surdoses, mais ces 3-là, c'en étaient 3 bonnes, se désole Marie-Ève Murray. Chaque fois, c'était des jeunes qui consommaient sur l'heure du dîner. L'élève revient en classe et paf, c'est là que ça embarque, et la réaction est extrême. Dans les 3 cas, les élèves ont perdu conscience, allant parfois jusqu'à avoir des convulsions devant leurs camarades de classe tétanisés. Chaque fois, les élèves sont revenus sains et saufs après une hospitalisation, mais la situation a suffisamment inquiété la directrice pour qu'elle décide de se procurer une trousse de naloxone. On espère ne pas avoir à l'utiliser, mais avec les statistiques qu'on a, on s'attend à ce qu'éventuellement ce soit malheureusement nécessaire. Bad trip de cannabis. Sans nécessairement parler de surdose, il n'est pas rare de voir des jeunes qui ont des malaises ou qui font un bad trip après avoir consommé trop de cannabis, constatent différents intervenants qui travaillent avec les jeunes dans les écoles. Des situations qui ne nécessitent pas toujours un transport à l'hôpital, mais un retrait au local de l'infirmière ou de l'intervenante. Ça peut être une anxiété très présente, de la paranoïa, l'idée qu'on va mourir ou rester comme ça toute notre vie, des palpitations cardiaques. Ce sont des sensations désagréables qui sont envahissantes et qui font que le jeune se retrouve un peu en mode panique, explique Lydia Lefebvre, directrice du programme de prévention des dépendances de la Maison de Jonathan, un organisme qui fait de la prévention dans les écoles secondaires de la Montérégie. Le problème s'est amplifié ces dernières années, avec la popularité du wax pen, en raison du taux de THC qui peut aller jusqu'à 95%, alors que le cannabis vendu à la SQDC en contient un maximum de 30%. C'est vraiment de la pure cochonnerie, déplore David Chouanière, directeur des 3e et 4e du secondaire au Collège Mont-Sacré-Cœur, une école privée de Grande-Baie. Les jeunes prennent une pof et ils sont gelés instantanément. Mais ça leur donne mal à la tête et l'effet est trop fort. Étonnamment, ce sont souvent les plus jeunes qui font les frais d'une consommation excessive, note Marie-Ève Murray. C'est le début de la consommation, les premières expériences. Ils ne connaissent pas le produit, ils ne connaissent pas leurs limites. Les plus vieux, eux, dépassent moins les limites, observe la directrice, mais ont souvent la fausse impression d'être en contrôle de leur dépendance. C'est justement lorsqu'elles ont compris qu'elles avaient perdu le contrôle de leur consommation et de leur vie que les adolescentes que Le Devoir a rencontrées à Portage se sont décidées à aller chercher de l'aide. Pour plusieurs, la peur avait alors remplacé le plaisir, peur de ce qu'elles pouvaient faire sous l'influence de la drogue. Peur des blackouts qui duraient des jours. Peur parfois même d'en mourir. J'avais peur de la mort à la fin, confie Chanel, 15 ans. À plusieurs moments, je consommais tellement que je me rendais proche de la crise cardiaque. Et je savais que si je continuais dans cette lignée-là, c'était la mort assurée. Du côté des garçons, plusieurs avouent avoir fait de l'aveuglement volontaire. Lorsque la peur d'une surdose se frayait un chemin jusqu'à leur cerveau, il s'empressait de refouler cette idée loin, bien loin. Ça me trottait dans la tête, mais en fin de compte, je m'en foutais, résume Liam. Ce que je voulais, c'était avoir un bon aïe. Puis si je meurs, je meurs. C'était « Consommer à l'école, un jeu d'enfant », un texte de Jessica Nadeau, paru le 30 octobre 2024 dans Le Devoir.
Bouchon de plastique, attache à pain, qu'est-ce qui va où? Un texte de Chloé Bourquin, paru le 25 octobre 2024 dans La Presse. Qu'il s'agisse de bouchons, de goupilles ou d'attaches, la question du recyclage de ces petits objets est un véritable casse-tête. En principe, il y a des marchés pour eux. Mais souvent, les centres de tri n'arrivent pas à les intercepter, explique Marie-Claude Rivet, chef des affaires publiques et communication interne chez Éco-Entreprises Québec. De petite taille et légers, ils peuvent facilement être perdus dans le processus de collecte. Il est aussi fréquent qu'ils soient mal aiguillés, ce qui peut contaminer des lots de verre, par exemple. Et ces petits objets sont aussi une source importante de pollution dans l'environnement. Parmi les 20 déchets les plus souvent retrouvés par l'Organisation Bleue le long du Saint-Laurent, les bouchons de plastique arrivent en 6e position, juste derrière les bouteilles de plastique et les canettes, révèle un rapport publié par l'organisme. Les bouchons de bière arrivent au 15e rang. De 2019 à 2023, l'organisme a ramassé un total de 3600 bouchons de plastique ou bouchons de bière au cours d'une centaine de nettoyages de berges. Les bouchons sur la bouteille. Pour s'assurer qu'un bouchon de plastique soit bien acheminé et recyclé, la recommandation de Recycle Québec est simple. Il faut laisser le bouchon sur la bouteille. On s'assure comme ça qu'ils ne se perdent pas en route, explique Daphné Champagne, conseillère en communication chez la Société d'État. Quant à la goupille en aluminium, on peut la laisser sur la canette. Mais pour les contenants en verre, qu'un couvercle de métal vient souvent refermer, il faut déposer les deux séparément dans le bac. Idem pour les bouteilles de verre et leurs bouchons en métal. Ce sont de gros aimants qui viennent collecter les métaux. Donc même les petits objets se prennent assez bien, explique Daphné Champagne. La question des attaches de pain est plus complexe. Celles en plastique ne sont généralement pas acceptées au recyclage et donc doivent être mises à la poubelle. Mais bonne nouvelle, de plus en plus d'entreprises sautent le pas pour les remplacer par des attaches en carton, moins dommageables pour l'environnement si elles finissent dans la nature. Aussi, théoriquement, celles en carton peuvent être recyclées, mais elles sont si petites qu'il est plutôt recommandé de les mettre au bac brun pour s'assurer qu'elles ne finissent pas à l'enfouissement. Enfin, pour les bouchons de liège, ceux-ci sont théoriquement recyclables, mais ne sont pas acceptés dans le bac de recyclage. Certaines municipalités les acceptent dans le bac brun, et il existe des écocentres qui peuvent les récupérer. On peut également trouver des points de collecte sur l'application « Ça va où » de Recycle Québec. Fait à mentionner, à partir du 1er janvier 2025, l'harmonisation des collectes municipales devrait permettre d'amasser de plus grands volumes de ces petits objets. On pourra probablement être en mesure de mieux les traiter, avance Marie-Claude Rivet. Et les collectes? La Société canadienne de la sclérose en plaques collectait jusqu'à tout récemment, dans deux de ses bureaux en région, des bouchons de plastique. Selon les chiffres envoyés à la presse, Son bureau sur la côte nord a permis de recycler environ 2,4 tonnes de plastique. Cette campagne n'existe plus aujourd'hui, mais elle permettait à ses bureaux locaux d'amasser plusieurs milliers de dollars chaque année, affirme Marie-Ève Simard, directrice des communications de la société. L'avantage est qu'une fois trié et amassé en grande quantité, ces goupilles, attaches et autres bouchons acquièrent une certaine valeur. Ils peuvent ensuite être vendus à des recycleurs. Par exemple, la Fondation Clermont Bon Enfant collecte, entre autres, les goupilles d'aluminium et récupérait aussi jusqu'à récemment les attaches à pain. Les goupilles qu'elle a amassées depuis 1998 ont permis de financer l'achat de plus de 500 fauteuils roulants pour des personnes en situation de handicap. L'achat d'un seul fauteuil roulant, d'une valeur de 2 000 à 3 000 $, nécessite d'amasser 110 sacs de grand format remplis de languettes, selon la Fondation. Des bouchons solidaires outre-Atlantique. Depuis le 3 juillet 2024, en Europe, les fabricants ont l'obligation de faire en sorte que leurs bouchons restent attachés aux bouteilles. Cette nouvelle mesure a suscité l'émoi chez les amateurs d'eau embouteillée. Dans les médias européens, des articles sur le sujet ont fait les manchettes, décortiquant le pourquoi du bouchon attaché et surtout le comment boire sans renverser d'eau. En Amérique du Nord, le Wall Street Journal a rapporté le désarroi des touristes qui ont voyagé en Europe durant l'été et qui devaient réapprendre à boire avec ce bouchon dans le visage. Des associations françaises, comme les Bouchons d'amour, se sont également opposées à cette nouvelle mesure qui, selon elles, met leur collecte en péril. Au Québec, bien que toute initiative visant à favoriser la recyclabilité soit à encourager, une telle mesure n'est pas à l'ordre du jour, indique Marie-Claude Rivet. On préfère rappeler aux gens que chaque geste compte et que le mieux pour s'assurer qu'il soit recyclé est de laisser le bouchon sur la bouteille, ajoute-t-elle. C'était Bouchon de plastique, attache à pain, qu'est-ce qui va où? Un texte de Chloé Bourquin, paru le 25 octobre 2024 dans la presse.